7h43 en temps universel et tout de suite c'est le journal des sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
En football, Afimi Kopouloulou tout près de devenir un léopard.
L'attaquant du Jagiellonia Bialystok en Pologne fait partie des petits nouveaux convoqués par Sébastien De Sabre. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo a déjà dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement. Pouloulou en fait partie, tout comme le défenseur du Legia Varsovie Steve Capuadi et le latéral de West Ham Aaron Wan-Bissaka. Afimi Kopouloulou, meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence cette saison, avait récemment évoqué sur RFI son désir de jouer sous le maillot congolais. Un souhait désormais exaucé.
Franchement, c'est un sentiment indescriptible. Je ne pourrais pas le décrire comment je me sens. Je me sens juste heureux, beaucoup de fierté et honoré. Honoré vraiment. Voilà, parce que je me dis que voilà, le travail paye, la passion s'prime. Je suis vraiment très content. Voilà, je suis vraiment très impatient, très excité à l'idée de rejoindre la tanière, de rejoindre la terre de mes ancêtres, de pouvoir porter ce maillot, de pouvoir découvrir des nouveaux joueurs, des nouveaux coéquipiers. Et puis voilà, essayer bien sûr après par la suite de faire ma place dans le groupe. Mais en tout cas, vraiment pour être appelé pour la première fois, c'est vraiment un très grand honneur et je donnerai tout pour ce maillot. Et je suis vraiment fier de faire partie de cette sélection congolaise.
Afimi Kopouloulou avec Sofiane Amazian, les Léopards qui disputeront deux matchs amicaux contre le Mali et Madagascar les 5 et 8 juin. Ça sera en France à Orléans.
Le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, troisième participation en vue pour l'Algérie.
Vainqueur de la Gambie 3-0, les Verts A' profitent de la toute dernière fenêtre d'éliminatoire pour valider leur billet. Les Algériens qui figureront en août prochain dans le groupe de l'Ouganda, du Niger et de la Guinée. Une place reste attribuée pour le CHAN, elle se jouera demain entre l'Afrique du Sud et le Malawi.
Chez les jeunes, la CAN U20 et les affiches des quarts de finale sont désormais complètes.
L'Afrique du Sud y sera grâce à son match nul un partout contre la Zambie, tout comme l'Égypte, vainqueur de la Tanzanie 1-0 et qui affrontera le Ghana en quart de finale. Déjà qualifié avant cette dernière journée de phase de groupe, la Sierra Leone se mesurera au Maroc.
Et puis du basket, Antoine, le tirage au sort du prochain championnat d'Afrique masculin a été effectué à Luanda en Angola.
Les tenants du titre tunisien croiseront dans un groupe B relevé Madagascar, le Nigeria et le Cameroun. Les finalistes ivoiriens seront eux opposés au Cap-Vert, au Rwanda et à la RDC. Seul représentant du continent au JO de Paris 2024, le Soudan du Sud croisera l'Angola, la Guinée et la Libye dans le groupe C. Enfin, le groupe D sera formé du Sénégal, du Mali, de l'Égypte et de l'Ouganda. Les Lions sénégalais qui attendent un sacre depuis 1997. Abdelyader Ouad, le vice-président de la fédération sénégalaise, ne prend donc aucune équipe de haut.
Je vais entre l'Égypte, qui est une équipe expérimentée, donc qui a une longue expérience de l'afro-basket, et le Mali, qui est un pays voisin, avec lequel justement on a l'habitude de se frotter, je dirais. Et naturellement, les confrontations sont âprement disputées avec le Mali. Donc, je suis partagé entre les deux. Toutes les équipes se valent et vraiment c'est une compétition qui sera âprement disputée et on espère quand même sortir du lot si Dieu le permet. Naturellement, c'est le trophée qui nous amènera. Le staff, notamment le coach, la fédération par le biais de son président, tous les moyens, toutes les conditions sont mises en place justement pour que l'équipe puisse rentrer à Dakar avec le trophée. Tout sera mis en place pour que la coupe revienne à Dakar.
Abdelyader Ouad avec Georges Timba, l'Afrobasket qui aura lieu du 12 au 24 août.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Roem.
Et à la une de l'info ce matin, un cran de plus franchi dans la confrontation et l'escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde a bombardé des bases aériennes pakistanaises tôt ce matin, 3 bases dont l'une près de la capitale Islamabad. Le Pakistan annonce être en train de répondre et New Delhi confirme plusieurs attaques de drones le long de la frontière commune. Le Premier ministre pakistanais a convoqué cette nuit l'autorité du commandement national chargée notamment du déploiement de l'arsenal nucléaire du pays. L'inquiétude de la communauté internationale grandit. Les pays du G7 appellent à une désescalade immédiate. Les États-Unis proposent leur médiation et la Chine appelle fermement les deux pays à éviter l'escalade. À la une également, Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer sont arrivés à Kiev. Le Français, l'Allemand et le Britannique seront aussi rejoints par le Polonais Donald Tusk autour de Volodymyr Zelensky tout à l'heure dans la capitale ukrainienne. Il devrait notamment évoquer la dernière proposition américano-européenne de cesser le feu. Et puis le meurtrier d'Aboubacar Cissé transféré en France, remis aux autorités par la justice italienne. Il a été mis en examen hier pour assassinat en raison de la race ou de la religion après avoir tué il y a 2 semaines le jeune malien dans une mosquée du sud de la France. Aboubacar Cissé a été enterré jeudi dans son village natal dans la région de Kaye, dans l'ouest du Mali. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale avec vous et à la une, l'escalade entre l'Inde et le Pakistan.
L'Inde et le Pakistan se dirigent vers une guerre totale, titre le New York Times. Le Pakistan a accusé l'Inde d'avoir lancé des missiles air-sol qui ont visé au moins 3 bases. Peu après, les responsables pakistanais ont annoncé le début des représailles, ajoute le quotidien américain, qui s'alarme d'une forte escalade entre les deux voisins dotés de l'arme nucléaire. En Inde, le Hindustan Times signale lui aussi l'attaque de 3 bases aériennes pakistanaises lors d'une attaque nocturne, quelques heures après que des drones pakistanais ont été repérés en 26 points dans différents états indiens. De son côté, Pakistan Today cite l'armée pakistanaise qui rejette les accusations sans fondement, dit-elle, de l'Inde après l'attaque de Pahalgam qui a coûté la vie à 28 civils. L'Inde accuse en effet le Pakistan d'être derrière cette attaque terroriste et cela sans aucune preuve, assure Pakistan Today. En retour, le Pakistan accuse l'Inde d'être activement impliqué dans la propagation du terrorisme au Pakistan en exploitant et en soutenant des réseaux terroristes sur le sol pakistanais, ajoute le journal.
Dans la presse européenne, à présent, la photo de 3 dirigeants qui voyagent en train.
Le Britannique Keir Starmer, le Français Emmanuel Macron et le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz apparaissent souriants et détendus autour d'une grande table en bois verni dans le wagon salon du train spécial qui les conduisait à Kiev, où ils sont arrivés ce matin. Ils sont en Ukraine afin d'y rencontrer le président Volodymyr Zelensky, explique Die Welt. Ils appellent la Russie à cesser d'entraver le chemin vers la paix, précise le quotidien allemand. Et ils réitèrent leur soutien aux appels du président Trump en faveur d'un accord de paix. Pour la première fois depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, remarque le journal, les États-Unis et l'Europe semblent à nouveau unis dans leurs efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ces derniers mois, Trump a tenté de mettre fin à la guerre à lui tout seul. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi. Le Times, de son côté, souligne que c'est la première fois que les dirigeants européens se réunissent dans la capitale ukrainienne depuis l'invasion de la Russie. Le quotidien britannique note lui aussi que le président Trump semble avoir changé de ton au sujet de Poutine et de ses intentions concernant des pourparlers de paix.
Et puis, un peu plus de 24 heures après l'élection du nouveau pape, de nombreux journaux s'attardent encore sur la personnalité de Léon XIV, mais aussi sur ses pouvoirs.
Quels sont les vrais pouvoirs du pape, interroge La Croix. Au-dessus d'une photo montrant Léon XIV sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, souriant, les yeux levés vers le ciel. Est-il un monarque absolu, interroge le journal catholique. Pas vraiment pour l'Église catholique, nous dit-on. La primauté du pape doit s'articuler avec la collégialité épiscopale, les évêques, successeurs des apôtres, et le pape, leur chef. Le pape peut-il changer le dogme, interroge encore La Croix, selon laquelle le pape ne peut pas tout faire et notamment changer le dogme. Car, nous explique le journal, le Concile Vatican I précise que le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres. Enfin, la question de savoir si les catholiques peuvent contester la parole du pape, cela dépend de quoi l'on parle. Ainsi nous dit La Croix, il faut examiner le statut de la parole. Entre l'encyclique et la conférence de presse dans l'avion, la parole pontificale n'a pas la même force. Elle est toutefois de la plus haute importance puisque l'arme principale du pape est la parole, entend-on souvent dans les couloirs du Vatican, raconte La Croix. L'image a aussi son importance. Le journal nous rappelle ainsi celle de François quelques mois après son élection, jetant une couronne mortuaire au large de l'île de Lampedusa en mémoire des nombreux migrants qui ont péri en traversant la Méditerranée.
Merci Catherine Potet.
RFI Matin.
Bonjour Jean-Baptiste Placam.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
En l'espace de 24 heures, les cardinaux réunis en conclave vont donc porter l'américain Robert Francis Prevost à la tête de l'Église catholique. Comment expliquer que l'enthousiasme déclenché par l'élection du pape Léon XIV dépasse le 1,5 milliard de catholiques que revendique l'Église ?
des obsèques du pape François à l'élection de son successeur ce 8 mai, l'Église catholique apostolique romaine a rendu une copie plutôt propre et même impeccable. Elle a exhibé son plus attrayant profil et l'impressionnant faste romain a fait le reste. Le pape élu, rayonnant d'humilité, a conquis le monde aussi bien par sa simplicité que par la sincérité de ses propos. Par définition, le souverain pontife est un homme influent, mais s'il séduit tant, c'est parce qu'il ne parle pas qu'aux seuls fidèles de son Église. Il parle pour tous, surtout pour les plus faibles, sans chercher à séduire ou à impressionner. Au-delà du prestige que confère a priori le Saint-Siège, la façon dont ce pape saura incarner la fonction déterminera son poids dans le monde. Ses premiers pas semblent convaincants, mais Léon XIV devra, face à chaque défi planétaire, prouver son courage et son souci de la justice. Son histoire personnelle laisse espérer qu'il saura être un grand pape.
Quelle est donc cette histoire personnelle ?
Cela a été dit et répété, il est le premier pape américain. Lui-même l'a précisé, il est aussi le premier pape péruvien. Mieux encore, il est un authentique citoyen du monde de par la diversité et la richesse de ses origines. Même les non-croyants pourraient croire que le Saint-Esprit s'est effectivement mêlé de l'élection de ce pape. Entre le père, lieutenant de vaisseau de l'US Navy, d'ascendance française et italienne, et la mère, d'ascendance riche et variée, ce pape est un concentré de tant de peuples. Son histoire personnelle interpelle les champions de l'intolérance et du rejet de toute différence. Il se glisse comme un subtil trait d'union entre les peuples et divers mondes. Léon XIV est comme un hymne à la tolérance, à l'ouverture. Américain évidemment, péruvien aussi, italien également, français aussi quelque part. Mais alors, du côté de sa mère, la diversité des origines pousse à se demander si l'histoire n'est pas trop belle, que les cardinaux aient choisi un pape né d'une mère aux origines aussi diversifiées est un don du ciel. La mère de Léon XIV, bibliothécaire, est en effet d'ascendance créole louisianaise, haïtienne et espagnole. Son grand-père maternel est natif d'Haïti et sa grand-mère maternelle, une créole métisse de Louisiane, native de la Nouvelle-Orléans. Ses grands-parents maternels sont tous deux issus de familles mulâtres avec des ancêtres esclaves noirs. De cette présentation que confirment diverses sources, dont le New York Times, on pourrait conclure que Léon XIV, premier pape américain, premier pape péruvien pourrait aussi être un lointain descendant d'esclaves et le premier pape ayant une ascendance africaine depuis le 5e siècle. Pape migrant aussi quelque part, Léon XIV est une cinglante interpellation à tout ce que proclament les plus intolérants des dirigeants du monde d'aujourd'hui. Une histoire personnelle aussi riche ne pouvait qu'influencer ses choix et son évolution comme missionnaire.
En quoi concrètement ?
Parmi les nombreuses congrégations que compte l'Église catholique, il a choisi pour donner à sa vocation une orientation pertinente l'ordre des ermites de Saint-Augustin, un de ses ordres mendiants apparu au XIIIe siècle, avec vœu d'une pauvreté radicale pour vivre de charité en joignant vie contemplative et vie apostolique. Saint-Augustin l'Africain, leur père spirituel, est né dans l'actuelle Algérie. Il disait que l'homme humilié ne pouvait être voulu de Dieu. En somme, que l'humiliation de l'autre ne pouvait être une attitude vraiment chrétienne. Voilà qui définit parfaitement le pape que viennent de se donner les catholiques.
Merci Jean-Baptiste Placa. Et bientôt 6h en temps universel sur la radio du monde avant le journal dans 3 minutes à présent. De la musique et un homme qu'on ne présente plus, 45 ans de carrière au compteur pour Youssou N'Dour et un nouvel album sorti le mois dernier, Éclairer le monde, c'est le titre de ce disque où l'on retrouve notamment le titre Boule Malage.
Chérie, comme tu sais bien le faire, tu peux le faire à ta guise. Chérie, comme tu sais bien le faire, chérie Boule Malage.
préféré, chérie boule malade.
Titre de Youssou N'Dour que vous retrouvez dans la sélection du mois de RFI sur musique.rfi.fr. Et l'info continue dans moins d'une minute. A tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
C'est le 29 mai à Abidjan que sera désigné le prochain président de la BAD, la Banque africaine de développement, qui finance de nombreux projets en Afrique. Nous verrons quels sont les enjeux de ce scrutin hautement politique, les forces et les faiblesses des cinq candidats et candidates.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque ouest-africaine de développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.